Depuis 2022, les ateliers et les conférences de Vinapogée sont enregistrés pour que vous, amateurs de vin, puissiez écouter et réécouter afin de vous divertir et apprendre au fil du temps histoire, expérience, gourmandise, savoir. Marc-André Sellos est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mycologue et botaniste, il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux plantes. Sa conférence s'intitule « Le vin et l'héritage d'un fruit ». Comprendre ce que le grain de raisin lègue au vin.
Bon, c'est un plaisir d'être là parce qu'il n'y a pas que des conférences, il y a aussi des choses qui se passent au-dessus qui sont très intéressantes pour quelqu'un comme moi. Et par ailleurs, oui, on parle de science, mais ce n'est pas de science dont on entend parler ici, c'est de compréhension, c'est de comprendre ce qui fait les choses qui nous entourent. Et pour le coup, alors je suis désolé, c'est vrai que pour les gens qui aiment le vin dans la maturité, je vais vous ramener à l'immaturité du vin. Je vais vous ramener à son origine, je vais vous ramener en fait à ce dont vient le vin. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le raisin c'est aussi un fruit. Ce n'est pas simplement une promesse de vin, c'est avant tout un fruit. Et ça appelle une question toute bête, qui est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un fruit. Il faut se rappeler biologiquement, parce que la vigne existait bien avant qu'on en fasse du vin, ce qui conduit à la formation de cette partie qu'on appelle le fruit. Alors vous avez tous vu des fruits. La caractéristique des fruits, c'est d'être assez coloré. Il y a des couleurs relativement vives, où dominent des molécules comme les anthocyanes, qui sont bleus à rouges, essentiellement selon le pH, et puis des flavonoïdes, et puis quelques autres molécules comme des carotènes, qui contribuent à donner des couleurs jaunes ou oranges. Et ça, ça tranche vraiment sur le paysage. Et ça permet à un certain nombre d'organismes de voir ces fruits. Pourquoi les voir? Qu'est-ce qu'il y a à la base dans un fruit pour la plante? Il y a quelque chose qui ne correspond absolument pas à une couleur, ni à quelque chose d'aussi charnu et d'aussi gros. Il y a une graine. Une graine, c'est quelque chose qui redonnera une plante. Le problème de cette graine, c'est qu'il faut qu'elle s'éloigne de la plante mère. Alors, pas forcément beaucoup, mais il faut qu'elle s'en éloigne assez pour ne pas être en concurrence avec ses parents. Et pour ça, il y a deux façons. Le vent, là, c'est le vent qui va emmener les graines, et ça, vous avez tous vu le pissenlit, par exemple. Et puis l'autre façon, c'est de se payer un transporteur, et vous allez voir le prix du transport, d'ailleurs. Se payer un transporteur, c'est de mettre ses graines dans des structures appétantes, qui sont appétantes pour des animaux qui vont les manger, et puis ils vont jeter les graines. Vous savez, souvent, on jette un morceau, une graine de framboise ou de mûre qui s'est coincée entre les dents. Et puis, disons-le, et désolé de ce propos un peu sordide, mais dans nos fesses, dans nos excréments, il y a des graines qui sont tout à fait capables de germer. Et ça, c'est deux modalités de transport, avant l'entrée dans le tube digestif ou après. Alors donc, le problème, c'est que les animaux, ils n'ont cure de transporter les graines. Il faut les motiver. Et pour les motiver, il y a souvent une récompense. Cette récompense, c'est que dans le fruit, il y a des choses qui sont alimentairement intéressantes. Voire même beaucoup plus riche que la moyenne des aliments, le sucre la plupart du temps. Ça peut être de la matière grasse. Ceux qui sont des amateurs de durian, par exemple, eh ben là, c'est de la matière grasse, pour le coup. Donc il y a quelques fruits gras, mais c'est rare. Le fruit, il est surtout sucré. Et le drame, c'est que le sucre n'a pas d'odeur. Vous pouvez flairer un verre d'eau avec du sucre dedans, ça n'a pas d'odeur, le sucre. Je veux dire, il y a une bonne raison à ça. Le sucre, c'est la molécule qui est la forme d'énergie des cellules. Ce qui a des odeurs, c'est ce qui passe dans l'air. Et ce qui s'évapore. Si jamais la forme d'énergie des cellules s'évaporait, ce serait une perte énergétique catastrophique. Donc la molécule qui est la source d'énergie, elle ne peut pas s'évaporer, elle ne peut pas avoir d'odeur. Et comme elle n'a pas d'odeur, comment savoir où sont les fruits? Eh bien c'est simple, on va passer une annonce, on les met en couleur, on les peint en couleur. Et les fruits sont donc très souvent rendus visibles par de la couleur, voire, mais c'est rare, mais voire par des odeurs. C'est le cas d'ailleurs dans les vignes américaines, que vous pouvez localiser au pif. Les vignes d'Amérique, elles sentent, les fruits en plus, ils sentent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas de la vigne. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre à l'animal d'apprendre à localiser les fruits, sachant que ce qu'il cherche, le sucre ou la matière grasse, ben, ça n'a pas d'odeur. Bon. Alors il y a tout ça dans un fruit, et y a tout ça dans le raisin. Il y a des graines, ce sont les pépins. Il y a une récompense, et là c'est du sucre, c'est le jus sucré, et une attraction qui est essentiellement, au moins pour la vigne européenne, la couleur. Et ça commence dans la nature avec, on en reparlera, la vigne sauvage, qui a des petites grappes, alors pas très riche en fruits, puis les fruits sont assez petits, mais des grappes noires. Et ça, le fruit noir ou violet, c'est le fruit typique de la vigne sauvage. Et ça persiste d'ailleurs dans certaines vignes cultivées, c'est les cépages rouges. Alors, une chose, c'est qu'un petit complément sur le fruit, il y a ce qu'on appelle la pruine. Et la pruine, elle va permettre, en renvoyant un peu de lumière, de faire passer la couleur un peu vers le bleu. Et ça, c'est très intéressant parce que les fruits bleus, ou bleuâtres, c'est les fruits dispersés par les oiseaux. En fait, et pour une vigne sauvage qui grandit comme une liane et qui fait ses fruits en hauteur, c'est pas pour les rats, c'est pas pour les hommes. Hein. Les disséminateurs, c'est les oiseaux. Et une fois de plus, les fruits bleus, c'est les fruits dispersés par les oiseaux. On n'a pas beaucoup des fruits bleus. On n'a pas beaucoup. Pensez à ceux du lierre, par exemple. Ou à ceux de la viornotin dans le sud de la France. Mais c'est assez rare quand même chez nous. Par contre, quand vous allez sur les tropiques, des fruits bleus, là, il y en a. Il y en a même des bleus ciel. Bon, c'est une autre histoire. L'idée, c'est que la pruine, c'est un espèce de revêtement blanc qui va vers le bleu. Alors, la pruine, c'est quoi? C'est qu'en fait, la couche la plus externe, qui n'est pas une couche cellulaire, hein, l'assise moléculaire la plus externe, elle se désquame en petites squames, elle pèle. C'est comme des pellicules, mais alors en beaucoup plus petit, vous voyez l'échelle là. Et ça crée des espèces de... Bah, ça fait diffuser la lumière, ça renvoie la lumière, parce que les rayons lumineux, ils se prennent là-dedans, ils sont renvoyés, ils sont déviés. Et ce revêtement pelucheux, qui est plus petit, les peluches sont plus petites que les cellules, hein, ce revêtement pelucheux, il fait un petit reflet donc bleu, là où ça devrait être noirâtre, et c'est un endroit où on peut loger des levures. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de ça, mais c'est quand même l'endroit où se trouvent des levures et puis aussi des bactéries qui, historiquement, quand on n'inoculait pas, étaient une source importante des microbes qui vont faire le vin. La pruine, hein, c'est quand on la broie avec les baies, hein, c'est, vous voyez, entre 1000 et 10 000 levures par gramme, c'est entre 100 et 1000 bactéries par gramme, il y a vraiment là des microbes qui sont présents. Alors j'ai dit historiquement parce qu'aujourd'hui, vu la façon dont on fait le vin, la plupart des levures qui vont faire le vin viennent de la cave ou de l'inoculation. Et si terroir microbien il y a, il est plutôt de la cave, mais c'est une autre histoire. En tout cas, historiquement, c'est comme ça que sont arrivées les levures dans les caves. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, quand vous faites une cave qui n'a pas eu de vinification, c'est encore comme ça qu'elles arrivent. Et d'ailleurs, les premières vinifications ne sont pas toujours aisées à cause de ça. Bref, qu'est-ce que c'est qu'un fruit? C'est de la couleur, c'est une récompense et c'est une graine au milieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, en route pour la vigne. Oui, la vigne, comme en fait beaucoup de fruits, c'est un fruit défendu. Et vous allez voir que ce fruit, il est défendu en deux endroits. Le premier endroit qui est défendu, ce sont les pépins. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il ne faut pas que les animaux viennent manger le fruit tant que les graines ne sont pas prêtes à être dispersées. Parce qu'elles sont là, même s'ils les dispersent, elles ne germeront pas. Donc, il ne faut pas que le fruit soit appétissant et pris avant maturité. Maturité des pépins, cela s'entend. Et cette maturité des pépins, elle va se refléter sur la maturité du fruit. Quand vous avez ça... Je pense que vous ne prenez pas ces fruits-là, vous prenez ceux-là. En fait, de façon innée ou par apprentissage, les animaux qui viennent, ils vont prendre les fruits mûrs. Voilà. Bon. Et alors vous, vous ne récoltez pas le raisin pas mûr. Ça me rappelle une fable de La Fontaine, où on dit que les raisins verts sont bons pour des goujats. C'est pas bon le raisin vert. Et c'est pas bon qu'on en fasse un fruit de table ou qu'on veuille en faire du vin. Pourquoi? Parce que tant que les raisins, les pépins ne sont pas mûrs, il ne faut surtout pas que les fruits soient attractifs. Il faut au contraire qu'ils soient répulsifs. Alors, le mûrissement, ça va être à la fois quelque chose qui va dire que du point de vue biologique, les pépins sont mûrs, mais ça, les animaux s'en fichent. Et ça va être un signal qui va dire « c'est bon !» Là, c'est le moment de manger le fruit. Et ce signal, c'est très souvent un changement de couleur et une accumulation de sucre. sachant que le sucre, il suit la couleur, mais c'est surtout la couleur qui va donner le signal. Et les animaux, ils s'habituent à ce que la couleur signale le sucre. Donc vous, vous mangez ça, mais vous ne mangez pas ça. En fait, pour être très exact, la maturation, c'est une baisse de l'acidité, une augmentation de la quantité de sucre, et puis un changement de couleur, et plus généralement un changement des tanins, qui passe d'amer et extrêmement astringent à un peu moins amer, un peu moins astringent, un peu moins repoussant. Car c'est les tanins dans le jeune âge, c'est des tanins qui sont répulsifs. Et on va limiter le pouvoir répulsif de ces tanins quand le raisin est mûr. Donc un raisin mûr, il va être moins acide, plus sucré, plus coloré, et avoir des tanins qui ont changé, qui sont moins désagréables. En fait, il y a deux maturités. Et ces deux maturités ne sont pas forcément couplées. La première maturité, c'est la maturité sucrée ou alcoolique, parce que le sucre, c'est ce qui va faire l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui se développe dans un temps assez long. Même, vous savez, quand les raisins commencent à se friper, il y a encore beaucoup de sucre. Donc, du point de vue sucre, on est en surmaturité, mais on est toujours en maturité. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle le potentiel aromatique, ou le potentiel tannique, ou la maturité tannique, qui est le moment où les tanins sont remaniés pour être les moins gênants et les plus flatteurs, nous on dira. Et ce moment-là, il est souvent un peu moins long dans le temps. Et puis c'est une maturité qu'on ne connaissait pas tellement. Alors maintenant on la connaît mieux, on goûte les raisins, on sait en parler. Mais cette maturité-là, elle est souvent assez ponctuelle. Et il ne faut pas qu'elle ait lieu trop tôt ou trop tard. Alors en général, l'adéquation d'un cépage au terroir, pardon, j'étais un peu vite, c'est justement que quand dans un lieu avec un climat donné, vous avez une bonne adéquation, ça se passe au même moment les deux maturités, et le Pinot Noir commence à jouer des tours dans le Nouveau Monde, hein, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'avec le changement climatique actuel, il arrive que cette coïncidence soit plus complètement remplie, et que donc les cépages historiques d'un terroir ne soient plus ceux de demain. Dommage, mais ça peut se gérer parce qu'il y a d'autres variétés, d'autres cépages que l'on peut prendre en compte. Petite remarque, cette maturation tannique, exclut complètement les feuilles, la rafle et tout le reste. Et ça veut dire que les tanins de feuilles, de rafle que vous allez mettre, eux, ils n'ont pas de maturité. Ils restent toujours des tanins défensifs, des tanins désagréables. Et donc, leur utilisation est soumise à un peu de prudence, parce qu'ils ont des personnalités très particulières, ils ne mûrissent pas, eux. Il n'y a pas de maturité tannique ailleurs que dans le grain. L'animal qui vient manger, il n'est pas censé se servir en feuilles en même temps, hein, surtout pas. Bon. Voilà, alors, ça c'est le premier aspect, c'est défendre les pépins tant qu'ils ne sont pas mûrs, et puis rendre le fruit appétant quand les pépins sont mûrs. Mais alors, à ce moment-là, il ne faut surtout pas que les animaux mangent les pépins. Du point de vue de la plante, il faut que les animaux dispersent les pépins, mais qu'ils ne les mangent surtout pas. Or, dans les pépins, il y a des tas de choses bonnes à manger, toutes les réserves qui vont permettre la germination des graines. Et en particulier, vous savez qu'on peut en faire de l'huile. Cette huile, c'est une partie des réserves. Hein. Dans les pépins, les réserves, c'est plutôt huileux. Et donc, il ne faut surtout pas que les animaux, quand ils se servent du fruit, ils assaisonnent ça avec un petit peu d'huile de pépins d'olive en croquant les pépins. Donc, dans les pépins, il y aura, même à maturité, des tanins qui seront des tanins assez désagréables, assez peu comestibles, assez repoussants. Il y a beaucoup de tanins amers, beaucoup de tanins... vous avez déjà croqué des pépins de raisin, hein, donc je ne vous fais pas de dessin. Et il y a notamment beaucoup de quercétine, mais pas que. Hein. Donc, il y a des tanins qui ne mûrissent pas aussi dans les pépins. Parce que là, le but, c'est... Enfin, le but. L'intérêt physiologique, c'est que les animaux n'aillent pas manger les pépins. Donc, on garde en tête que dans les pépins, il y a des tanins assez... à la fois très concentrés et très actifs. Et d'ailleurs, ça, vous le savez, parce qu'il y a tout un tas de spécialités pharmaceutiques qui utilisent ces tanins. Notamment tout un tas de spécialités pour la motricité veineuse, hein, pour améliorer le... Alors ça, c'est des emballages de médicaments... fait à base donc de pépins de raisin. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'imagerie, ça c'est un truc, vous pouvez regarder sur Internet, dans l'imagerie de ces médicaments et de ces emballages de médicaments, le pépin, à l'intérieur, il ressemble plutôt à une chair de pomme qu'à une chair de raisin. Là, je ne sais pas pourquoi, mais souvent dans l'imagerie hein, qui est associée à ces médicaments, c'est comme ça. On peut aussi extraire des tanins qu'on va remettre dans le vin. Et parmi tout ce qu'on appelle les tanins œnologiques, qui sont ces tanins que l'on rajoute dans la fabrication du vin, eh bien, il y en a qui sont issus de pépins, tout simplement, qui sont une valorisation des pépins après le pressurage. Donc, les pépins, on ne doit pas y toucher. La conclusion de ça, c'est que les pépins ont des tanins très particuliers, très forts, plutôt avec des tendances amères et extrêmement astringentes. Et ça peut se valoriser, mais dans le vin, ça va être comme les parties qui ne sont pas les feuilles ou les tiges, qui ne sont pas l'objet d'une maturité. On va essayer de limiter, ou en tout cas d'ajouter en fonction de la personnalité qu'on souhaite donner au vin, ces parties-là. On va y revenir. Les tanins de pépins, c'est quand même c'est assez fort, même à maturité. Ça va ? Bon, alors je continue à construire mon fruit parce qu'il est encore défendu par ailleurs. Il est défendu en surface. Eh oui, la surface du fruit, c'est ça qui est le premier obstacle que rencontrent des agressions physiques ou chimiques, comme la lumière, l'excès de lumière par exemple. Le risque de coup de soleil, ce n'est pas les cellules qui sont au cœur du grain de raisin, c'est plutôt celles qui sont en surface. Et puis c'est là qu'arrivent les pathogènes. Et d'ailleurs ça, quand on mange des raisins, on sait très bien qu'on le sent, hein, il y a plus de tanins dans la peau aussi. Alors, effectivement, la plante étant immobile, il lui arrive des tas de choses pas drôles. Elle peut prendre des coups de soleil. Elle peut se faire agresser aussi bien par des champignons que par des insectes qui viennent gnaquer les parties superficielles. Et puis, elle subit des stress thermiques, quand il fait très chaud, des stress hydriques quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et elle ne peut pas vraiment s'échapper. Et elle va en fait avoir recours à tout un tas de tanins pour limiter ses stress, ceci pour plusieurs raisons. Les tanins colorés, ils absorbent certaines longueurs d'onde, donc ils jouent le rôle d'écran solaire. Et c'est pour ça que la peau est souvent plus colorée. C'est notamment quelque chose qui va empêcher la lumière de rentrer dedans. Les pathogènes, ils ne vont pas aimer certains tanins qu'on trouve dans la peau. Mais surtout, je voudrais vous parler du stress. Vous savez, le stress, c'est quand l'organisme fonctionne mal parce que la température, l'excès de lumière, sont pas bonnes. Mais le problème du stress, c'est que ça ne fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Ce qui fait des dégâts, c'est que quand il y a du stress, la cellule fonctionne mal et elle fait des radicaux libres et des molécules oxydantes. Et c'est ça qui fait les dégâts. Et l'intérêt des tanins, c'est qu'en plus, ils inhibent les radicaux libres, et ils bouffent l'oxygène, ils mangent les oxydants. Donc l'intérêt de ces tanins, c'est aussi que, quel que soit le stress, les agents de dégâts que sont les radicaux libres et les formes oxydantes de l'oxygène, tout ça, ça va être neutralisé par les tanins. Alors je vous donne quelques exemples, si vous voulez. Mon premier tanin, c'est le resvératrol, qui est un antioxydant bien connu. Alors entre nous, il y a plein de flavonoïdes dans le vin qui sont beaucoup plus antioxydant. Sa réputation est très surfaite. Hein. C'est un peu une légende urbaine. C'est vrai qu'il est antioxydant, mais ce n'est pas le plus fort. Mais en tout cas, il fait partie de ces molécules qui sont antioxydantes. Et donc, quand on contient du resvératrol, on gère mieux le stress. Et quand on est une cellule de surface d'un grain de raisin qui est vraiment exposé au stress, c'est intéressant. Je vous montre ici une autre molécule, alors qui n'est pas tout à fait un tanin, c'est un tanin oxydé, mais peu importe, c'est la rotundone. Je ne sais pas si vous connaissez la rotundone, mais je suis sûr qu'aromatiquement, vous l'avez déjà croisée. Vous savez, souvent, sur des vins d'Auvergne ou des Alpes, les gamets et les pinots noirs ont des petites notes poivrées, qu'on ne leur retrouve pas trop en plaine, ou qu'on trouve dans des terroirs frais du Beaujolais à la limite. Ça se fait aussi sur la mourvèdre, sur la flûte, le nom m'échappe.
La
mondeuse, noire. C'est quand il fait frais, il y a un tanin protecteur qui s'accumule et qui s'oxyde, c'est la rotundone. Et ça, ça se développe quand les amplitudes thermiques jour-nuit à la véraison sont très prononcées. Ce qui fait que c'est souvent dans les cépages, dans les vins d'altitude, les rouges d'altitude, qu'on retrouve ces petites notes poivrées qui ne sont pas désagréables et qui sont typiquement liées à une protection contre les dégâts liés à la fraîcheur nocturne. Voilà la chose. Donc, voilà tout un tas de choses qui vont s'accumuler dans les cellules de surface. Alors, vous voyez, les cellules de surface, c'est les cellules de la peau. Si la peau est plus épaisse, c'est que les cellules sont dans une boîte qu'on appelle la paroi, qui est assez épaisse, qui les rigidifie plus que dans la pulpe. Et puis à l'intérieur des cellules, il y a ces composés. Et là, vous le voyez bien parce que les anthocyanes qui sont colorées, on voit bien qu'elles sont dans les cellules. Elles sont donc à l'intérieur des cellules. Et les anthocyanes, ben ça, c'est l'exemple de crème solaire. C'est plutôt le côté crème solaire. Alors, bon, elles sont d'une couleur qui varie du rouge au noir. Et ça, ça dépend de l'acidité. Hein. Quand l'acidité baisse, on passe du rouge au noir. Et d'ailleurs, quand les raisins mûrissent, ils passent du rougeâtre au noir. C'est pas étonnant. Hein. Ça convient bien. Alors, d'ailleurs, le fait que les anthocyanes puissent être bleus, c'est une expérience qu'on fait tous les jours quand on vit à Paris et qu'on rince son verre de vin. Si on fait bien attention, qu'on rince en mettant un petit peu d'eau dans le verre de vin, on obtient de l'eau qui est bleuâtre, alors que le vin il était de couleur normale. Ça, c'est à cause du calcaire qu'il y a dans l'eau, qui augmente le pH, donc qui baisse l'acidité, et donc vous pouvez faire bleuir votre vin en le diluant dans de l'eau calcaire. Faites pas ça dans les Vosges. Il restera rouge. Donc des anthocyanes, mais ce n'est pas tout. Hein. Outre les anthocyanes, il y a aussi, on ne les voit pas dans les raisins rouges, mais on les voit bien dans les raisins dits blancs, qui sont en fait jaunes. On voit que la peau est souvent plus jaune que la pulpe. Il y a les flavonoïdes aussi, qui sont aussi des écrans contre l'effort de luminosité, tout en étant en même temps des antioxydants. Donc dans la peau, il y a plein de ces tanins qui sont protecteurs, et ça, c'est ce qui défend périphériquement le fruit des attaques physico-chimiques et biologiques. C'est dans la peau. Alors, vous allez voir que c'est important pour la vinification. Disons un mot de la pulpe. En général, la pulpe ne contient que très peu de tanins. Pourquoi ? Parce qu'elle, au contraire, bon, elle est protégée par la peau, et c'est elle qui contient tout ce qui va réjouir l'animal. Donc, il faut qu'au contraire, elle soit facile d'accès. Donc, en général, la pulpe, elle contient peu de tanins, et en particulier peu de tanins colorés, donc elle est peu astringente et le jus est incolore. Ce n'est pas le cas des cépages qu'on dit teinturiers. Alors, ils appartiennent plus à l'histoire du vin qu'au présent. C'est des cépages où la chair des pépins est rouge. Bon, c'est rarissime. C'est notamment le gamay fréau, qui est un mutant du gamay, qui met pas ses tanins au bon endroit, enfin, qui met des tanins dans la chair. Bon. Ces cépages teinturiers, ils ont été utilisés autrefois. On en mettait quelques pieds dans la parcelle quand on complantait différentes variétés. Et ils permettaient de renforcer la couleur du vin. Mais ils ont un défaut, c'est qu'en fait, ils sont déréprimés sur tous les tanins, que ce soit des tanins colorés ou pas. Donc les chairs de ces cépages teinturiers sont non seulement très colorées, donc ça fait un vin qui a une couleur soutenue, mais on commence à être assez fort en tanins et avoir des astringences et des amertumes prononcées. Du coup, ils n'ont jamais été utilisés que comme des améliorateurs. À une époque, on faisait pisser la vigne, et où donc la couleur se retrouvait diluée dans un liquide très abondant. Maintenant, on a des rendements moindres, on vise des rendements moindres, et ben on n'a plus besoin des cépages teinturiers pour colorer la couleur, et du coup, au passage, on n'abîme pas le goût. Parce que c'était quand même pas génial, ces trucs-là. Il y a un petit problème de légende. Ça, c'est un gamay vrai, avec une chair claire, et le gamay fréau, il est là. Mais ça appartient plus à l'histoire de la viticulture. Bon, alors maintenant, un épisode simple dont je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, c'est le passage de la couleur du vin à la couleur de la couleur du raisin à la couleur du vin. Alors vous vous souvenez, donc la peau contient tout un tas de choses colorées, notamment les anthocyanes. Les pépins comportent tout un tas de tanins, dont certains sont amers et aussi beaucoup de quercétine. Et puis, la chair, elle, contient un peu de flavonoïdes, un peu de quercétine, mais surtout du sucre. Donc, quand on presse rapidement, sans laisser de contact avec la peau, les tanins, ils n'ont pas le temps de sortir de la paroi. Ah ben oui, parce que vous savez qu'il y a cette espèce d'emballage, là. Donc, quand on appuie, les cellules qui n'ont pas un emballage trop fort, elles lâchent leur contenu, c'est la pulpe. Mais les cellules qui ont un emballage un peu fort, elles ne lâchent pas leur contenu. Et les pépins et la peau ne relâchent pas leur contenu. Quand on laisse macérer un petit peu la peau, mais du coup on laisse les pépins aussi, on obtient des vins rouges ou rosés qui non seulement emmènent la couleur, mais ils emmènent encore plus de tanins qui, sans être colorés, vont être astringents, voire un peu amers, à la fois à partir des pépins et à partir de la peau. Donc là, par macération, plus ou moins prolongé, on obtient des vins rouges ou rosés et on n'extrait pas que de la couleur. On extrait aussi les autres tanins qui accompagnent dans la peau. Et dans les pépins qui accompagnent des tanins colorés. Et puis, si on fait la même macération des peaux et des pépins sur un raisin blanc, bah, on obtient un vin qu'on dit orange. Voilà. Donc, voilà un exemple de vin orange. Vous voyez que dans le vin orange, non seulement on a extrait plus de couleurs, mais souvent aussi dans le vin orange, ce qui se passe, c'est que comme on a plus de macération à plus haute température et en présence d'oxygène que dans le vin blanc, les composés colorés commencent à s'oxyder et ils deviennent oranges. Alors qu'idéalement, dans le raisin, ils étaient tous jaunes. Donc les vins oranges, c'est des vins issus de blancs, mais vinifiés comme des rouges, et où on a non seulement plus extrait le jaune des baies, mais en plus, comme c'est plus oxydatif, on l'a plus oxydé. Alors maintenant, pour terminer sur ces histoires de couleurs, un dernier détail, justement, qui va nous rappeler que l'oxydation brunit les tanins, notamment quand ils sont jaunes ou clairs. Vous avez, je pense, eu l'occasion, ben, il y a un très très bon domaine là qui est en dégustation, vous avez eu l'occasion de goûter des produits avec de la pourriture noble, et la pourriture noble, ça amène des arômes très particuliers, mais ça amène aussi des colorations assez marquées. Des colorations tuilées à brunes, dès les premières années, qui diffèrent du vin blanc. Et ça, ça nous rappelle que les tanins sont protecteurs. C'est notamment, les tanins de la peau, des composés anti-champignons. Donc un champignon capable de se développer sur la peau, c'est un champignon qui est capable de détruire ces composés. Et comment fait le botrytis pour détruire les tanins de la peau? Alors c'est des tanins pâles, puisque c'est des raisins blancs ou jaunes, et bien il les oxyde. Et en fait, il fait activement, biologiquement, le travail de vieillissement. L'équivalent du travail de vieillissement, c'est qu'il va les rendre moins toxiques en les oxydant. Et du coup, vous allez avoir un vin qui, d'emblée, dès le départ, va avoir une couleur que n'aurait un vin blanc que beaucoup plus tard. Et le fait que le botrytis brunisse les raisins, ça vous renvoie au fait que les tanins ne sont pas bons pour lui et qu'il est obligé de les modifier pour s'installer. Modification qui change leur couleur parce que c'est une oxydation, exactement comme quand un vin blanc vieillit. Sauf que c'est fait sur la baie et ça se voit très bien là. Alors, dernière petite remarque, les tanins et les composés aromatiques qui restent dans les mares peuvent être valorisés. Il y a tout un tas de produits comme la tome homard qui valorise ça. Et si vous êtes un amateur de tome homard, ben, on récupère encore des choses vraiment intéressantes hein, dans les mares, mais pas forcément d'une grande délicatesse, mais ça, ça va bien avec le fromage, justement. Et puis, ben, on parlait tout à l'heure de tanins œnologiques ou de produits pharmaceutiques. Ben, clairement, c'est les pépins qui restent dans le mar qui servent à produire ça. Donc, dans le mar, il reste quand même des choses intéressantes, hein, des choses intéressantes de se passer du fruit. Donc, la peau est aussi une protection, et c'est là que se trouve tout un tas de composés que l'on peut vouloir extraire ou pas. Et quelque part, on peut dire que les différentes façons de faire du vin, c'est un jeu avec le degré auquel on extrait les défenses des pépins et de la peau. Bon, maintenant, il ne faut pas se leurrer, le fruit de la vigne, c'est un fruit détourné. C'est un fruit qui n'est plus un fruit. Il faut rappeler que le propre du fruit, c'est de porter des graines. Et qui vont permettre de reproduire et de disperser les individus. Nos vignes, il y a longtemps qu'on ne les plante plus avec des pépins. Et donc on peut dire d'une certaine façon que les raisins, les fruits de la vigne, ne lui servent absolument plus à se reproduire. Pourquoi? Parce qu'historiquement, alors j'emprunte ces planches au très très bon livre de Pascaline Lepelletier qui vient de sortir, et que j'ai eu l'honneur de préfacer. En fait, il y a des fois, enfin, souvent les préfaces, on prend un type important pour faire genre le livre est bien. Et là, en fait, c'est surtout le préfacier qui se retrouve honoré d'être dans le bouquin. Bon, enfin, c'est une histoire comme ça, ça vaut ce que ça vaut. Bref, l'image vient de là, et Pascaline a ces deux représentations très exactes des façons de bouturer la vigne. Il y avait la façon traditionnellement, hein, qui consistait à mettre un pied, un rameau en terre, jusqu'à ce qu'il racine, et puis après, on le sépare de la plante mère. Ça, c'est le marcottage. Et puis, il y avait ce qu'on appelait, au sens strict, le provignage. Alors, le provignage, c'est une méthode assez barbare, vous allez voir pourquoi, qui consiste à enfouir la vigne. Vous avez un pied de vigne, il est trop vieux, il ne donne plus, vous l'enfouissez, vous faites un trou, vous le faites basculer dedans, vous rebouchez, en laissant dépasser quelques branches, ces branches vont reprendre et rapidement, ça pourrit, ça meurt et ça vous fait de nouveaux pieds. C'est ça, le provignage. Le détail, c'est qu'au bout de 500 ans à faire ça, ben, votre sol, il est plein de restes de cèpes mal décomposés. Et quand vous essayez de faire un trou pour faire le provignage suivant, vous êtes bien emmerdé, parce que c'est un tas inextricable de branches, de branches ou de cèpes. Et dans ces cas-là, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, à Autun, au 5e siècle, les viticulteurs font appel aux citoyens en disant ben, « c'est le bordel, on ne peut plus faire de vin, il faut que vous veniez nous aider ». Et tout le monde s'est mis à dessoucher 500 ans de souche dans l'Autunois, parce que c'était le bordel. Bon, bref, peu importe les méthodes, vous sentez bien que là, les pépins, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, l'intérêt, c'est que maintenant, en fait, on a ce qu'on appelle un cépage, c'est-à-dire quelque chose qui va être génétiquement identique de génération en génération, puisqu'on ne passe pas par un pépin qui, comme nos enfants, est différent de ses parents. On passe par un bouturage, un clonage, et on a une descendance qui est identique au point à ce qu'on avait avant. C'est plus pratique. Aujourd'hui, vous le savez aussi, je pense, on a recours au greffage, qui consiste sur un porte-greffe résistant au phylloxéra, de nouveau à remettre, et sans faire de pépin, à regreffer une branche. Et donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de pépins. Et on a tellement plus besoin de pépins qu'on a un petit peu tendance, des fois, ce n'est pas un procès que je ferai à tout le monde, à oublier l'importance des pépins. Pourquoi ? Parce que les pépins, ils ont toujours été un peu là. Très peu, mais quand même un tout petit peu là. Même si la plupart des fruits ne serviront pas à reproduire, il y a des fruits qui donnent des nouveaux cépages. Alors, bon, le Cabernet Sauvignon, par exemple, il porte très bien son nom. Les Cabernet Malbec aussi, mais ils sont quand même moins connus. Puis il y a des fois, le nom ne permet pas de savoir d'où ça sort, mais regardez la flopée, la tripotée de gamins qu'ont eu le Pinot noir et le Gouet. Le Gouet, hein, c'est un cépage blanc qu'on trouve encore dans certaines vallées suisses, sous le nom de Gweiss en particulier, dans les aires germaniques. Le Pinot noir, bon, bah, vous le connaissez bien. Regardez ce qu'ils ont. Bon, ils ont souvent fricoté ensemble et ça nous a donné le Chardonnay, le Serrois, le Gamay, le Romorantin. Et bon, le reste est quand même un peu moins connu, mais bon. Bah si, il a dégoté quand même. Et ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un a récupéré un pépin. Il ne savait d'ailleurs souvent pas, cette personne en récupérant le pépin, ne savait pas très bien quel était le papa qui avait donné le pollen. Ça, c'est génétiquement qu'on l'a montré récemment. Et c'est comme ça qu'on a découvert que ces deux-là avaient eu beaucoup d'enfants ensemble. Mais le truc, c'est que quand même, il y a eu des fois dans l'histoire où on a pris des pépins. Et ça a fait des nouvelles variétés. Et peut-être qu'il ne faudrait pas oublier de continuer à le faire. Je vais revenir là-dessus. Ah ben, je vais y revenir tout de suite, tiens. Au risque d'escagasser certains d'entre vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui proposent des cépages qui, dans leur généalogie, contiennent des cépages américains qui sont résistants à l'oïdium et résistants au mildiou. Et en fait, ils font des descendants qui cumulent plusieurs gènes de résistance et qui donc sont très très difficiles à contourner pour le mildiou et l'oïdium. Et ça, voilà une des façons aujourd'hui de ne pas oublier que faire de la sexualité à la vigne, c'est lui faire des pépins, ça peut être une façon de résoudre des problèmes. Et dans une perspective de changement climatique, on a soit des cépages, soit même d'autres espèces de vignes qui sont extrêmement tardives et qui pourraient nous amener des gènes de tardivité très intéressants pour continuer à faire du vin là où, avec le changement climatique, on commence à faire des récoltes de raisins au 15 août. D'accord ? Donc, pour l'avenir, l'adaptation au changement climatique et éviter de mettre trop de pesticides, donc bénéficier de résistance de vignes américaines, le pépin, il est encore important. Et donc, en création variétale, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais vous savez, le raisin, il est quand même vachement dénaturé parce que comme maintenant, il ne sert plus à attirer les animaux, eh ben, il a perdu certaines, je vais y revenir ensuite, de ses caractéristiques, notamment d'avoir la couleur qui attire les oiseaux. Bah oui, parce que ça, nous, on trouve ça sympa, ça nous attire, nous, mais enfin, ça attire plus les oiseaux. C'est vraiment un fruit détourné et dénaturé qui ne sert plus vraiment à la reproduction, même si, parfois, quand même, il faut savoir s'en servir pour ça. Alors, il est d'ailleurs tellement dénaturé, le raisin, que des fois, il y a des raisins sans pépins. Ce n'est pas l'option que prennent le plus généralement les cépages de cuves. Mais quand on mange du raisin, quand même, les pépins, ce n'est pas si agréable que ça. En tout cas, il y a des gens qui sont peu préparés au tanin et qui ne les aiment pas. Et donc, on fait des cépages comme la sultanine, qui sont des cépages où les grains avortent. Alors, ils avortent aussi, on dit que ce sont des cépages apyrènes, parce qu'il n'y a pas a privatif de noyau ou pépin. Bon, ces cépages apyrènes, c'est aussi le cépage des raisins de Corinthe. Les raisins de Corinthe, hein, il n'y a pas de pépins dedans, et ce n'est pas qu'on les a retirés avant de les sécher. Dieu merci. C'est que c'est aussi une forme apyrène, le raisin de Corinthe. Alors ça, ça pose d'ailleurs un problème. Parce qu'en général, dans le développement d'un fruit, s'il n'y a pas pépins dedans, le fruit ne se développe pas. C'est inutile pour la plante d'aller développer un fruit si jamais il n'y a rien à transporter pour les animaux. Vous y êtes, c'est logique ça. Et vous allez voir que c'est très important par rapport à la vigne. Donc en général, le fruit se développe sous l'effet d'hormones émises par le pépin. Et s'il n'y a pas de pépin, le fruit ne se développe pas. Souvent, vous avez une pomme qui a un côté un peu aplati par rapport aux autres. Ouvrez cette pomme perpendiculairement. C'est la photo que j'aurais dû mettre là, mais je n'en avais pas. Vous verrez qu'en général, là où le fruit est peu développé, c'est un endroit où il n'y a pas de pépins. Et donc, il y a eu moins d'hormones qui a fait grandir le fruit. Donc, localement, votre fruit, il est un peu déprimé. Bon, beaucoup de pêches plates, par exemple, hein, il n'y a pas de graines dedans. C'est pour ça que le noyau est tout petit. Mais du coup, elles sont petites comme pêches. Elles sont moins charnues que des pêches normales. Alors, dans le cas de la vigne, l'hormone qui provoque le développement des fruits, c'est les gibrélines. D'ailleurs, quand on fait de la sultanine ou du raisin de Corinthe, et qu'on va avoir des raisins plus gros, on rajoute, on pulvérise maintenant, on fait ça, des gibrélines pour avoir des grains plus gros. Et ça, ça fait que si jamais au moment où le fruit se forme, il n'y a pas de grains, par accident, et l'accident pouvant être que les conditions météorologiques ont défavorisé la pollinisation, eh bien ça fait ce qu'on appelle du millerandage. Alors le millerandage, hein, c'est quand il y a des petits grains mal développés parce qu'ils ont un pépin ou pas de pépin. Et ces petits grains, ils vont partir avec deux fardeaux dans l'existence. Un, ils sont plus petits. Donc le rapport chair sur peau est vraiment en faveur de la peau. Vous savez que plus on est petit, plus on a de surface par rapport au volume. C'est vrai que les bébés se refroidissent très très vite par rapport aux adultes. Donc on va avoir beaucoup plus de peau que de chair. Ça va amener plus de tanins de peau. Et puis l'autre défaut, c'est que comme ils n'ont pas de gibréline, le fruit se développe plus lentement. Et donc au moment où les autres fruits seront à récolter, les petits raisins qui n'ont pas été fécondés, eux, ils seront encore à la rame en train d'essayer de passer à la couleur rouge. Vous les voyez là, ils sont en train à peine de rougir, et encore ceux qui rougissent, c'est les plus gros. En fait, moi, je lis là ce qui se passe. Hein. Là, il doit y avoir un pépin quand même, donc c'est plus gros et moins retardé, puis là, il n'y a pas de pépin, donc c'est plus petit et plus retardé. Alors ça, le millerandage, c'est encore un truc, on peut l'aimer ou pas. Un petit peu, dans certains vins, dans certaines régions, c'est quelque chose qui va donc amener plus de tanins et des tanins moins mûrs. Donc c'est vite pas flatteur. Mais un petit peu, ça peut faire une personnalité. Le millerandage, c'est... Bon, il y a des gens qui sont vignerons dans cette salle qui sauraient en parler mieux que moi. C'est quelque chose qui amène des tanins différents et qui peut donc être souhaité ou pas. Et voilà ce que c'est que le millerandage. Et pour terminer, donc, je vous rappelle que quand on a des raisins à pyrène, souvent, c'est bien de pulvériser de la gibréline parce que ça aide à faire ce que ne font plus les pépins. Mais oui, là, on arrive à des choses complètement dénaturées. C'est-à-dire que des fois, on finit par utiliser, soit pour du vin dans le millerandage, soit pour la production, des fruits qui ne font plus leur boulot de fruits, quoi, ils n'ont plus de graines. Bon. Donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, le fruit, il est vraiment détourné uniquement pour nous et plus du tout pour ses fonctions historiques. Reste la grande question de l'amélioration de ce fruit. Parce que ce fruit, il a été extraordinairement changé en fonction des besoins que nous, on avait. Bon, un besoin qu'on vient de voir, par exemple, c'est que dans certains cas, on ne veut plus de pépins. Mais une fois de plus, pour le vin, ce n'est pas une très bonne idée parce que les pépins, ils amènent des tanins et ces tanins peuvent être raisonnablement intéressants. Donc, c'est plutôt les raisins de table. Non, moi, je pense qu'il faut se souvenir de ce qu'est le raisin sauvage. C'est des petits fruits en petit nombre et qui sont tous attirants pour les oiseaux, donc tous bleutés. Quand vous regardez les raisins, aussi bien de table d'ailleurs que de vinification, vous voyez que les grains sont plus gros, plus nombreux, et les couleurs ont changé. Alors, le fait que les raisins soient plus gros ne tient pas seulement à des changements génétiques, dont je vais parler après. Il y a une chose qui fait que les raisins sont plus gros et plus nombreux, c'est la taille. Alors, effectivement, une plante ligneuse, et la vigne est une liane, mais c'est quand même une plante ligneuse, chaque année, ses tiges grandissent en diamètre. Donc plus il y a de tiges, plus il faudra de ressources pour faire grandir en diamètre toutes les tiges. Si vous taillez, vous aurez bien sûr à faire grandir les parties ligneuses qui restent, mais du coup, vous aurez beaucoup plus d'énergie à mettre dans les fruits. Et c'est pour ça qu'on taille les fruitiers. Enfin, il y a très peu de fruitiers qu'on ne taille pas. C'est qu'on les empêche de faire du bois pour qu'ils fassent plus de fruits. Donc une partie de mon observation qui consiste à dire qu'il y a plus de sucre et des raisins plus gros, ça vient de la façon dont on conduit la vigne. Mais il ne faut pas se leurrer, ça vient aussi de causes génétiques. Alors voilà sans doute le document le plus illisible de ce topo. Vous avez ici les 19 chromosomes de la vigne, qui portent plein de gènes. Et pour faire simple, vous avez en violet les zones les plus différentes dans la vigne cultivée de la vigne sauvage. Et vous voyez qu'il y a deux zones qui sont super différentes. Dans cette zone-là, il y a des gènes qui provoquent l'augmentation de taille des grains de raisin. C'est-à-dire que s'ils sont plus grands, c'est non seulement qu'il y a plus de choses à mettre dedans, oui, mais c'est aussi que génétiquement, vous faites des raisins plus gros. Faire des raisins plus gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de pulpe. Et les pépins sont à peu près de la même taille. Et puis je vous rappelle que quand le volume augmente, la surface augmente moins vite que le volume. Donc, faire des raisins plus gros, c'est non seulement avoir plus de sucre, donc plus d'alcool, mais c'est aussi diluer plus les tanins. Et commencer à avoir un produit où la présence tannique est beaucoup plus supportable. Les tanins et même les autres composés aromatiques dont je vais parler après. Donc là, il y a quelque chose qui fait des raisins plus gros et des raisins qui, d'un point de vue aromatique, vont commencer à avoir une concentration tannique moins forte et plus de sucre, donc être plus vinifiable. Et puis ça, sur le chromosome 17, là, c'est quelque chose qui a lien à la couleur. Alors dans le détail, vous voyez qu'il y a des zones qui commencent à être un peu violacées ici et là. Et donc, l'idée, c'est que non seulement on a une sélection qui va faire des raisins plus gros, mais on a aussi une sélection qui a fait que ces fruits ont plus d'arômes. Par exemple, quand vous regardez les gènes de synthèse des terpènes, je vais vous montrer des terpènes tout de suite après, on s'aperçoit que par rapport à une plante classique, la vigne cultivée a trois fois plus de gènes de synthèse de terpènes, qui sont des composés aromatiques. Au niveau de la synthèse des tanins, on s'aperçoit que la vigne a 43 gènes de synthèse de ce qu'on appelle des stilbènes. Et ces gènes normalement, dans une plante normale, il y en a un ou deux. Donc on voit qu'on a sélectionné l'accumulation de tanins et de terpènes. Et il y a des exemples criants de ça, et qu'on va retrouver parce que ces exemples-là, en fait, vous les percevez dans le vin quand les arômes primaires persistent. Alors, d'accord, à leur apogée, les vins, les arômes primaires, ce n'est pas forcément ce qu'on a le plus. Vous avez dans les terpènes le linalol, qui est typique de tous les cépages muscatés, à commencer par le muscat, mais que vous retrouvez aussi, par exemple, dans les chardonnays muscatés. Vous savez, dans le sud de la Bourgogne, tout à fait au sud de la Bourgogne, on a tendance à planter le chardonnay, on plante des variants muscatés, qui produisent un peu plus de ça. Le géraniol, alors lui, vous le trouvez dans le Gewürztraminer en particulier, c'est encore un terpène, et c'est un de ces composés qui est surproduit par la vigne, et en particulier surproduit dans ces cépages-là. Voilà pour ces quelques exemples d'arômes primaires qui montrent la façon dont la vigne a amplifié la production de composés aromatiques. Alors, il reste le problème aigu de la couleur, et ce sera mon dernier point. Je vais vous parler de la couleur, sachant que la vigne sauvage, elle est noire. Alors, ce noir, il sert à l'attraction, mais vous êtes d'accord que l'attraction et la dispersion des pépins, elle est complètement plus nécessaire. Donc là, il n'y a plus besoin de garder la couleur sauvage. Et c'est une explosion de couleurs. Alors, pour bien faire les composés, les anthocyanes en particulier, qui colorent le grain de raisin, il faut trois gènes que vous avez là. Bon. Ces trois gènes, ils sont intacts dans la vigne sauvage. La vigne, elle est comme nous. Elle a deux copies de chaque chromosome. Donc normalement, elle a deux chromosomes qui portent ces gènes et ils sont identiques. Bien. Alors comment est-ce qu'on fait dans le raisin cultivé maintenant des choses de toutes les couleurs? Alors c'est très simple. Dans la vigne cultivée, il y a très longtemps, il est apparu un chromosome sur lequel ce gène-là, le gène bleu, et puis le gène rouge, sont mutés. Ils sont mutés parce qu'il y a des mutations là, et puis celui-là, il est muté pour une autre raison, il y a un petit bout d'ADN, ce qu'on appelle un transposon techniquement, qui est venu se coller là et qui perturbe son fonctionnement. Donc, il y a deux PET, un PET léger et un PET lourd. Du coup, ça ne marche pas. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez deux copies pétées, si vous me permettez le mot, deux copies qui ne marchent pas, vous êtes blanc, hein. Là, vous ne fabriquez plus de couleurs. Soit vous avez au moins une copie qui marche. Et là, c'est bon. Alors, un exemple, la plupart des cépages, en fait, ils ont une copie qui marche. La plupart des cépages rouges ont une copie qui marche et une qui ne marche pas. La preuve, vous l'avez vue plus haut. Regardez, je vous ai dit que le Gouec était blanc. Quand on le croise avec le Pinot, dans les descendants, il y a des descendants rouges, comme le beau noir, le franc noir, ou le gamay. Où est-ce qu'il est? Il est là. D'accord? C'est normal, ils ont hérité d'une copie non fonctionnelle de celui-là, puis d'une copie fonctionnelle. Mais il y a aussi des cépages blancs, comme la ligotée ou le chardonnay. Ils ont hérité d'une copie qui ne marche pas là, et de celle des deux qui ne marche pas du pinot noir. Vous voyez comment un cépage noir peut avoir des blancs dans ses descendants? Parce que souvent, les cépages noirs, ils ont une copie qui marche et une qui ne marche pas, mais bon, ils sont quand même noirs. Vous y êtes? Si vous avez deux voitures chez vous dont une ne marche pas, vous pouvez quand même aller faire les courses en voiture. Par contre, si vous avez deux voitures qui ne marchent pas, vous ne faites plus les courses en voiture. Bon. Alors, il y a exceptionnellement quelques cépages qui ont deux copies qui marchent. Oubliez ça, là, c'est pas beau. Le Malbec, par exemple, ou Côte, lui, il a deux copies qui marchent. Donc, dans ses enfants, il aura toujours des rouges. Il ne peut pas faire des blancs, lui. Mais ce n'est pas tout. D'abord, parce qu'on n'a fait que des blancs et des rouges, et en fait, la vérité, c'est que c'est plus complexe. Il y a des fois où les rouges commencent à avoir des accidents. C'est-à-dire que c'est des rouges qui ont une copie qui marche et qui ne marche pas, puis il y a un accident sur la copie qui marche, et ils deviennent blancs. C'est comme ça qu'on a le pinot blanc, ou le carignan blanc. Vous y êtes? Tout ça, c'est des variants. C'est des trucs rouges, puis il y a eu un accident, une mutation, ils sont devenus blancs. Donc on peut être blanc en descendant de rouge. Mais on peut être blanc à cause de papa et de maman. Puis un autre petit détail, c'est que des fois, il y a une des deux copies qui ne marche pas, qui se remet à marcher un peu. Un peu. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais souvent, ça ne remarche pas très bien. Et ça donne les cépages qu'on appelle... rose. Bon, j'ai mis rouge entre guillemets. C'est le chardonnay rose, par exemple, qui n'est pas très très connu, mais bon. C'est le Gewürztraminer, qui en fait est un cépage rose, pour être très exact. Quand vous le voyez à maturité, il n'est pas vraiment blanc. Et d'ailleurs, si vous faites un vin orange avec, ce sera un vin orange soutenu. D'accord? Donc voilà comment, quand une des deux copies commence à refonctionner un peu, je vous passe les détails, hein, on se remet à faire un peu de couleur, mais pas beaucoup. Puis j'ai le dernier point, et ce sera fini, j'ai les cépages gris. Alors vous allez me dire, gris, ça ressemble des fois à rose, hein, mais bon. Alors, comment faire un cépage gris? Je vous la fais simplement. C'est quand il y a une partie des cellules mutées qui font plus de couleur et une partie qui en font encore. Le pinot noir, par exemple, il peut donner du pinot gris. Il peut donner du pinot blanc quand toutes ces cellules ne fonctionnent plus. Mais si dans la partie qui engendre la plante, ce qu'on appelle techniquement le méristème, il reste quelques cellules qui marchent, un mélange de cellules qui marchent et qui ne marchent pas, alors ça vous fera du pinot gris ou du grenache gris. Et d'ailleurs, souvent, quand on regarde bien les gris, pouf, il y a une baie qui est blanche. Pour le pinot gris, c'est encore plus fréquent. Dans le pinot gris, souvent, vous avez un bout de la baie, quelques baies ou quelques grappes qui sont blanches. C'est quand les dernières cellules qui marchaient ont été éliminées par hasard. Et là, ben, il n'y a plus de cellules qui amènent de la couleur. Donc les gris, c'est des rouges dont certaines cellules ont muté, pas toutes encore, donc il y a un mélange. Et puis si finalement les cellules qui marchaient encore, soit elles mutent, soit elles sont éliminées ou diluées par le nombre, et bien ça blanchit. Et ça, ça vous explique tous ces cépages qui ont des séries rouge, gris, blanc. Bon, alors voilà, on a fait de la couleur, des couleurs très variées par rapport à la couleur monolithique sauvage. En fait, on n'a pas fait que de la couleur, hein. La couleur, c'est une chose, mais on a surtout fait des cépages qui ont des qualités pour la table, des qualités pour le vin, qui sont aussi aromatiques et différentes. On en a fait tellement qu'on en a oublié une partie. J'ai l'honneur d'être le président de l'Association des cépages modestes, qui a publié il y a quelque temps, c'est même la deuxième édition actuellement, sous la direction d'André Derrieux, un catalogue, ou tout au moins une narration de ces cépages-là. Des cépages, il y en a absolument de partout, et ils illustrent en fait comment, bon, c'est un fruit dénaturé, ok, mais c'est un fruit qui ne sert plus comme fruit, mais on l'a complètement amélioré et diversifié. Et d'ailleurs, je vais vous confier un truc qui va peut-être vous étonner, mais on n'est pas obligé de faire du vin avec le raisin. On peut aussi manger le fruit directement. Quand je vous disais que le raisin était un fruit, ce n'est pas que de la provocation, il y a des gens qui l'utilisent comme fruit. Et je vous présente l'un des cépages. Eh oui, alors on ne dit pas cépage quand c'est un raisin de table, mais l'une des variétés les plus consommées au monde, dont alors on ne dit pas en cépagement, mais bref. Les surfaces de culture sont à l'aune du cabernet et des cépages les plus cultivés, c'est le Kyo, qui est un pur raisin de table. Voilà. Donc voilà, il y a dans la vigne, enfin, dans les grappes de raisin, un fruit bien défendu, détourné de sa fonction première, mais justement, au passage, amélioré et diversifié au service de l'homme, et qui permet notamment de faire du vin. Et c'est ça que je voulais vous raconter, c'est que finalement, dans notre capacité à faire du vin, il y a la façon dont on a joué avec les caractéristiques biologiques et les fonctions biologiques du raisin. C'est ça que je voulais vous raconter, et que je raconte aussi, entre autres choses, dans ce livre. Et il est l'heure à avancer, il est peut-être le temps d'une ou deux questions avant de retourner, voir ce qu'on fait avec la biologie des raisins. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut peut-être prendre le temps d'une ou deux questions avant de se sauver, je ne sais pas si...
Sur la branche, là où il y a justement un pinot...
Alors, en fait, c'est ça, hein, voilà. On pourrait penser que le pinot blanc vient du pinot gris qui a blanchi, hein, quand on voit ça. En fait, quand on fait un peu de génétique, on s'aperçoit que le pinot blanc, il est venu en une étape du pinot gris. Et quand on essaie de voir ce que ça donne, ça, on obtient ce qu'on appelle le pinot verdâtre, qui est un pinot absolument nul en termes de vinification. Donc, ce mécanisme-là nous raconte le processus qui permet de faire blanchir en grisonnant d'abord, ok. Mais ce processus, il s'est passé une fois dans ce qui a donné le pinot blanc, et quand il se repasse là, il donne un produit qui n'est pas intéressant et que personne ne va utiliser. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. L'idée, c'est que ça nous raconte le mécanisme, mais le pinot blanc n'est pas un descendant du pinot gris. Le Pinot gris et le Pinot blanc sont des descendants en une étape du Pinot noir. Et le Pinot noir essaie vainement de donner des descendants plus clairs, mais franchement, le Pinot verdâtre, ce n'est pas intéressant. C'est juste un truc d'œnologue, d'empélographe.
Oui, entre le Chardonnay blanc et le Chardonnay rose, sur quels critères on se base pour dire que c'est toujours du Chardonnay?
Alors, j'ai deux types de réponses à vous donner. La première, c'est qu'il faut faire confiance aux spécialistes. C'est-à-dire que génétiquement, ils sont identiques, à part les petits changements des gènes pour la couleur. Génétiquement, c'est tout identique. Vous savez que les œnologues, enfin les empélographes, notamment du domaine de Vassal, ils utilisent des moyens d'identification qui sont, un, la morphologie, et c'est là que je vous dis, il faut croire les spécialistes. Parce que quand vous croisez Jean-Michel Boursicot dans une parcelle, c'est un peu un feu d'artifice bizarre, quoi. Il dit, oh, bah, tiens, ça c'est ça. Ça, vous et moi, on ne sait pas le faire. Après, il y a les analyses génétiques. Les analyses génétiques, elles permettent de voir si c'est génétiquement identique en regardant entre 15 et 30 petits morceaux d'ADN qui sont très variables d'un cépage à l'autre. Et donc, si c'est pareil, bah, c'est que c'est le même. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, si vous avez goûté ça, c'est qu'on s'aperçoit que le vin qu'on fait avec ça, même si on le vinifie en blanc, il est plus tannique. Souvent, quand on relance la couleur, en fait, c'est les mêmes voies de synthèse que celles qui font les tanins qui sont plus astringents et plus goûtés. Et donc, quand vous tirez sur la voie de biosynthèse, hop, ça la réveille, et elle se met à faire aussi des choses qui ne sont pas de la couleur. Hein, si vous avez goûté le Chardonnay rose, il a quand même plus de tanins et d'astringence, parce que souvent, quand on réveille la couleur, on réveille le reste aussi. Et c'est ce qui fait que les cépages teinturiers ne sont pas bons. C'est qu'en faisant de la couleur partout, on réveille partout les tanins, et ça commence à faire beaucoup de tanins astringents et amers. Non, parce que nous, on sélectionne ce qu'on veut comme cépage. Et comme je vous l'ai dit, les pépins, ils ont un rôle dans l'aromaticité du vin. Ils amènent certains tanins. Et donc, je ne connais pas de vin qui soit fait, dites-moi si je me trompe, à votre connaissance, avec des cépages ou des variétés à Pyrénées. Parce que ça amène quelque chose. Donc, on n'est pas prêt de laisser, de donner leur retraite aux tanins. Hein ? Ils ont encore pour quelques centaines d'années de travail. Pas en année supplémentaire de travail que ça se compte pour les pépins. Alors après, quand vous faites des raisins de table, là, au contraire, vous cherchez des choses où il n'y a pas de pépins. C'est plus flatteur. Et vous les trouvez. Et souvent, en fait, c'est des variétés où il n'y a plus besoin de la gibréline pour faire le fruit. Mais ça fait quand même des fruits plus petits. Et donc, si vous remettez de la gibréline, ça les fait regrossir. Mais c'est des variétés dans lesquelles on s'est affranchi des gibrélines. Bon, ben on fait signe qu'il faut rendre l'antenne.
Non, mais non, sur l'antenne, je suis triste de tirer sur la prise, mais
non.
Tu vas pas venir.
Mais je suis encore là, donc si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser, et je vous remercie surtout de votre attention.
Merci.